Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de 993. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Publié en 2009 pour marquer le 50e anniversaire de la série, Astérix et Obélix fêtent leur anniversaire et le 34e album des aventures du village gaulois. Albert Uderzo en assure le dessin et le scénario, tout en intégrant quelques matériaux plus anciens attribués à René Goscinny. Le livre adopte une forme particulière dans la collection. Plutôt que de développer une seule expédition contre Rome, il rassemble une anticipation humoristique. Des scènes de fête au village, des lettres, des pastiches et des récits courts. Cette construction fait de cet album un hommage à la longévité des personnages et à leur univers visuel. Astérix, Obélix, leurs proches et leurs adversaires y deviennent aussi les objets amusés de leur propre histoire éditoriale. Le volume est également important comme dernier album intégralement dessiné par Uderzo. Il vise les lecteurs familiers de la série. Mais reste accessible grâce aux ressorts directs de la comédie, aux querelles collectives et aux références culturelles visibles dans les images. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, un anniversaire qui transforme la série en objet de célébration. Le principe central du volume consiste à célébrer 50 années de présence éditoriale sans abandonner entièrement la fiction gallo-romaine. La fête organisée au village pour Astérix et Obélix sert de cadre à une succession de cadeaux, de visites et de messages venus de personnages déjà connus. Ce choix remplace la progression habituelle, fondée sur une mission ou un voyage, par une logique de retrouvailles. Le lecteur est invité à reconnaître les figures, les habitudes et les situations qui ont construit la mémoire de la série. La célébration fonctionne donc à deux niveaux. Dans le récit, le village honore ses deux héros. Hors du récit, Uderzo salue les lecteurs, les collaborateurs et la durée exceptionnelle de la bande dessinée. La structure fragmentée est cohérente avec cette intention commémorative. Car chaque séquence peut évoquer une facette différente du répertoire Astérix. Elle peut néanmoins dérouter un lecteur qui attend une intrigue continue et une confrontation centrale avec César. Le livre se comprend mieux comme un album jubilaire que comme une aventure classique. Son intérêt tient précisément à cette liberté de forme qui transforme le plaisir de reconnaissance en moteur comique. Deuxièmement, le vieillissement imaginaire met en jeu la permanence des héros. Les premières pages proposent une vision située 50 ans après les débuts de la série. Astérix et Obélix y sont devenus âgés et le village a suivi le cours ordinaire du temps. Cette hypothèse donne à voir ce que les aventures sérielles refusent généralement les héros vieillissent rarement, afin de rester immédiatement reconnaissables et disponibles pour de nouveaux récits. Uderzo rend ce mécanisme explicite en apparaissant lui-même dans la fiction. Lorsque son projet de faire vieillir les personnages provoque la réaction brutale de Obélix, le dessinateur ramène finalement les protagonistes à leur âge habituel. La plaisanterie possède une dimension métanarrative claire. Elle rappelle que ces figures ne vivent pas seulement dans une chronologie historique, imaginaire, mais aussi dans une convention de bande dessinée. Leur stabilité est une condition de la continuité de la série. La séquence ne cherche pas à offrir une réflexion dramatique sur la vieillesse. Elle utilise plutôt le décalage entre le temps réel de la publication et le temps immobile du village pour créer une connivence avec le public. Elle souligne aussi le rôle décisif du créateur, capable de modifier le monde fictionnel puis de restaurer ses règles. Troisièmement, les personnages secondaires et la mémoire collective du village, au lieu de limiter le récit au tandem formé par Astérix et Obélix. Cet album exploite le village comme une communauté de personnages immédiatement identifiables. Abraracoursix convoque une réunion pour préparer les présents, tandis que les échanges entre habitants prolongent les traits comiques installés au fil des albums. La place donnée au courrier permet également de faire revenir, même à distance, des figures rencontrées lors de voyages antérieurs. La lettre de Falbala est particulièrement révélatrice, car elle réactive le sentiment discret de Obélix tout en jouant sur son incapacité à lire. Astérix finit simplement par lui en transmettre le contenu, ce qui préserve à la fois la tendresse de la scène et le contraste entre les deux amis. Les messages des pirates et de Numéro Bis étendent encore la fête au-delà du village. Ils rappellent que les héros ont accumulé un réseau de relations et de rivalités au cours de leurs aventures. Cette circulation de souvenirs est moins destinée à faire avancer une action qu'à cartographier un univers devenu vaste. Pour les lecteurs de longue date, chaque retour peut fonctionner comme un rappel précis. Pour les nouveaux lecteurs, ces apparitions montrent que la série repose sur une galerie collective, et non sur les seuls exploits des deux personnages du titre. Quatrièmement, la parodie des médias modernes au sein de la Gaule antique, le passage intitulé « Galie cherche un barde remarquable » détourne le modèle des concours de chants télévisés. Assurance Tourix, habituellement tenue à distance lors des banquets en raison de ses prestations musicales, devient le centre provisoire de ce dispositif. Le gag ne repose pas seulement sur son absence reconnue de talent. il naît de la collision entre une pratique médiatique contemporaine et le décor antique artificiellement conservé par la série. Ce décalage est une méthode ancienne de Astérix la Gaule, permet de regarder des comportements modernes en les déplaçant dans un monde où ils apparaissent plus arbitraires. Ici, la compétition transforme un jugement musical collectif en spectacle codifié, avec une logique de sélection et de mise en scène. La scène reste légère, mais elle montre comment Uderzo actualise son humour sans modifier durablement le cadre historique fictif. La satire demeure moins développée que dans les albums bâtis autour de sujets politiques ou économiques précis. Elle fonctionne surtout comme une ponctuation parmi les épisodes de fête. Son efficacité dépend de la reconnaissance immédiate du format par le lecteur. Elle confirme que la série utilise les anachronismes, non comme des erreurs historiques, mais comme un langage comique volontaire et comme un lien entre plusieurs générations de public. En dernier lieu, un musée visuel de pastiches, de clins d'œil et de références populaires, le dessin porte une grande part du projet commémoratif. Uderzo insère des évocations de tableaux et de styles associés notamment à Léonard de Vinci, Delacroix, Courbet, Arcimboldo, Manet, Munch, Rodin et David. Ces références ne demandent pas une connaissance savante pour produire un effet comique, car la reconnaissance peut venir de la posture, de la composition ou de la transformation des personnages familiers. Elles offrent cependant une seconde lecture au lecteur qui identifie les sources. Le volume mêle ainsi patrimoine artistique, culture populaire et iconographie propre à Astérix. Un idéfix de sable évoque le sphinx, tandis que certaines images renvoient aussi à des couvertures musicales connues. Cette densité visuelle distingue le livre des albums davantage concentrés sur le dialogue ou sur la mécanique du voyage. Chaque planche peut contenir un détail autonome, ce qui encourage une lecture lente et des retours en arrière. Les pastiches ont aussi une fonction historique, ils montrent la virtuosité graphique de Uderzo au terme de sa participation directe à la série. L'hommage ne porte donc pas uniquement sur les personnages, mais sur les images célèbres que la bande dessinée peut absorber, déformer et rendre accessibles par le rire. En conclusion, Astérix et Obélix fêtent leur anniversaire conviendra surtout aux lecteurs, qui connaissent déjà le village gaulois, aux collectionneurs et aux amateurs de bandes dessinées intéressés par les jeux de référence. Un lecteur plus jeune peut y trouver les querelles, les gags physiques et les personnages récurrents qui font la lisibilité de la série. Il tirera toutefois davantage de plaisir de certaines séquences après avoir découvert plusieurs albums antérieurs. Le bénéfice principal du livre est de montrer comment une série populaire peut commenter sa propre histoire sans renoncer à son humour. Le vieillissement provisoire des héros éclaire la convention de leur éternelle disponibilité, tandis que les lettres et les retours de personnages rendent visible la mémoire accumulée par la collection. Les nombreux détournements picturaux invitent aussi à observer les dessins avec attention et peuvent constituer une porte simple vers la reconnaissance de références artistiques. Par rapport aux aventures classiques de Astérix, ce tome se distingue par son absence relative de quête unique et par sa composition en mosaïque. Cette particularité peut constituer sa limite pour qui recherche une intrigue tendue, mais elle représente aussi sa valeur spécifique. Comme dernier album dessiné par Albert Uderzo, il prend la forme assumée d'un bilan festif, un livre qui célèbre les héros, leur public, les codes de la série et la richesse graphique développée pendant un demi-siècle. Si vous souhaitez soutenir Albert Uderzo, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.